Que faire de mieux le jour de Pentecôte que lire une partie dans l'Évangile où Jésus lui-même parle du Saint-Esprit. Donc c'est au chapitre 14 de Jean. Jésus parle du Saint-Esprit dans les Évangiles, par-ci, par-là. Pas beaucoup en fait, sauf dans l'Évangile de Jean. Pas beaucoup parce que lui, il est sur terre encore. Voilà. Et justement, c'est quand il ne sera plus que... voilà. Et donc, chapitre 14. Et en fait... Merci. Et on va essayer... Je vais essayer de lire... différemment de la manière dont j'ai lu toute cette partie-là de Jean depuis 40 ans et plus, en fait. Parce que je lisais en compartimentant. Je compartimentais. Je disais, bon, hein, alors, Jean 14. Mais au début, il y a la demeure de mon père, beaucoup de plages, je reviendrai, je vous prendrai. Ça, c'est un thème. Après, il y a « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Ça, c'est un thème. C'est bien pour l'évangélisation. Enfin, vous voyez, je me disais des choses comme ça. Puis après, bon, ben, il y a bien sûr Thomas qui dit un mot, Philippe qui pose une question, Jésus répond. Et puis après, il y a ce fameux passage qui m'a tellement posé de problèmes pendant des années, « Vous ferez les œuvres que je fais, et même de plus grandes ». Et puis après, ben, on change de thème, et Jésus parle du Saint-Esprit. Et donc évidemment, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il ne faut pas compartimenter, parce que sinon, je perds le sens. Et en l'occurrence, pour ce matin, mieux comprendre ce que Jésus dit au sujet du Saint-Esprit se fera. Je comprendrai mieux si je lis sans compartimenter et en réalisant que ça forme un tout. Et en fait, comme la division en chapitres n'est pas dans le texte original, et les premiers mots du chapitre 14, c'est « que votre cœur ne se trouble pas ». On s'est dit, bon, pourquoi? Eh bien, il faut lire les derniers versets du chapitre 13. Et pas seulement... Non, pardon. En fait, pour lire, il ne me les faut pas, et pour voir vos visages, il me les faut. Mais maintenant, je vous vois avec mon cœur. Oh, il y a une poche. Non, mais je suis capable de les semer. Donc, pas seulement pour comprendre, les derniers versets de chapitre 13, pas uniquement pour comprendre. Pourquoi Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas, mais pour comprendre pourquoi Dieu donne le Saint-Esprit et ce que le Saint-Esprit va faire. Alors, verset 36 du chapitre 13, Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu ? » Et Jésus répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas maintenant me suivre, mais tu me suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. C'est un futur, hein, c'est pas inconditionnel. Je donnerai ma vie pour toi. Et Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera point que tu ne m'aies renié trois fois. Que votre cœur ne se trouble pas. » Alors, Pierre ici, il est le prototype du disciple qui suit Jésus, mais en qui Dieu n'a pas fini son travail. Bon, dans un sens, il est fini en personne, hein, mais et il est sûr de lui. Il est dans l'évangile de Marc, il fait rapporter lui-même qu'il a même dit « Si tous t'abandonnent, moi non. » Et Jésus lui fait la même réponse. Hein. Il est sûr de lui, mais en fait, il ne sait pas à quel point il est faible. Et Jésus lui dit, à lui et aux autres, et à nous aujourd'hui, que votre cœur ne se trouble pas. Ce n'est pas votre... Que votre cœur ne se trouble pas parce que moi j'ai une réponse. Parce que moi j'ai la solution à votre faiblesse. Alors la faiblesse, on l'a vu, hein, en gros, c'est l'homme naturel qui est sûr de lui, c'est Pierre qui dit à Jésus, quand Jésus annonce qu'il doit mourir, il dit « Ah non, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas !» En fait, notre faiblesse, c'est notre volonté naturelle. Et sincèrement, je me demande si Dieu a un autre problème avec les humains que leur volonté. Il n'y a probablement aucun autre problème avec eux. Et même avec ses enfants, assez souvent, mais que Dieu nous aide, que Dieu m'aide à être conscient de ça. Je ne voudrais pas que ma volonté soit le pivot de ma suivance de Jésus. Alors bien sûr, ma volonté doit s'aligner sur la sienne, donc elle entre en jeu. Mais vous voyez, ma volonté propre, je ne veux pas que ma volonté soit le pivot, le point sur lequel tourne mon ministère, ma relation aux frères et sœurs. Parce que la volonté naturelle, comme on lit, comme Paul l'écrit, ne se soumet pas à Dieu, elle en est même incapable. Alors, quelle est la réponse de Jésus? Pour qu'il n'y ait pas de mystère, je vais dire tout de suite le rapport entre ce qu'on vient de dire et le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas donné aux croyants pour qu'ils deviennent forts et sûrs de lui. Étrange affirmation dans une église. Donc du coup, il faut que je reformule. Il n'est pas donné pour que, de ma volonté naturelle, ce que ma volonté veut réussir pour Dieu. Pierre, il voulait sauver Jésus, hein, pour pas qu'il soit tué. Ce que ma volonté naturelle veut réussir par Dieu, eh bien le Saint-Esprit n'est pas donné pour que je sois assez fort pour le faire. Si vous voulez, il n'est pas donné pour accomplir mon ambition, mes rêves, mes que sais-je, pas du tout, du tout. Il est donné pour me focaliser sur le Père et le Fils. Et bien sûr que le résultat sera, vous ferez les œuvres que je fais. Et pourquoi vous ferez les œuvres que je fais, et même de plus grandes? Parce que je vais au Père. Alors on lit. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Beaucoup de place. Hein? Probablement c'est l'idée première. Sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Si donc je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il vient de dire à Pierre, tu me renieras, et deux phrases après, il dit, vous serez dans l'éternité avec moi. Et Pierre y compris. Et son intention, que là où je suis, vous soyez avec moi. Et donc ça dit clairement, vous n'accédez, mais il le dira après, que parce que vous êtes avec moi. Et où je vais, vous en savez le chemin. Là, il s'agit de... C'est pas la même chose que là où tu vas, là c'était la croix, quand il dit à Pierre, tu peux pas me suivre maintenant. Et maintenant, où je vais, c'est la maison du Père. Vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment saurions-nous le chemin? Jésus lui dit, moi, je suis le chemin. C'est-à-dire, si vous m'avez moi, il n'y a pas de souci. Vous arriverez là-bas. Si vous m'avez moi, vous arriverez dans la maison du Père. Moi, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il faut relever rapidement que Jésus ne parle pas ici de trois choses séparables, mais il est la vie. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle est en son Fils. Il est la vie en Dieu le Père, premièrement bien sûr, et son Fils avec. Il est la vie, et parce qu'il est la vie, et il n'y en a pas ailleurs, il est la vérité. Et parce qu'il est la vérité, il n'y en a pas d'autre, il est le chemin. Donc vous voyez l'enchaînement, le chemin, la vérité, la vie, ça dit une chose. Ça dit Jésus est. Nul ne vient au Père que par moi. Vous êtes d'accord, je ne m'arrête pas sur chaque phrase. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Alors là, c'est intéressant parce que ça implique qu'ils ne le connaissent pas vraiment. Pas pleinement. Et en même temps, il leur dit, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Je suis persuadé que là, ils sont titillés. Mais que dis-tu, Seigneur, qu'on connaît le Père et on l'a vu? En plus, en bon israélite, ils savent que jamais aucun œil de chair n'a vu Dieu. Même Moïse n'a pas pu voir la face de Dieu. Alors Philippe, forcément, qui n'est pas n'importe qui, le troisième, André, Simon, Philippe, dans l'ordre, les trois premiers disciples de Jésus. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Alors évidemment, dans un sens, il a tout compris. Mais l'inconvénient de son regard, c'est de ne voir Jésus que comme un moyen intermédiaire. Le but, c'est d'arriver au Père, et Jésus est le glorieux moyen d'y arriver. Et la réponse de Jésus dit, Jésus dit à Philippe, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe ?» Pourtant, il le connaît, Philippe reconnaît que Jésus est le Messie. Clairement. Celui qui m'a vu a vu le Père. Voyez, ce que Jésus veut empêcher chez Philippe et chez moi, c'est que je ne considère finalement la foi, le salut, la piété, tout ce qui touche à la vie devant Dieu et pour Dieu, comme simplement avec deux points, deux pôles, Dieu et moi. Le Père et moi, et Jésus. Alors, il est où? Eh bien, Jésus, il est quelque part au milieu, là, et grâce à lui, j'ai accès au Père. Mais le but du Père, c'est moi. Et c'est ça que Jésus veut empêcher, chez Philippe, et chez moi ce matin, et chez nous tous. Jésus veut empêcher que ses disciples ne se voient comme le but du dessein de Dieu, comme le centre du dessein de Dieu, comme l'objectif suprême de toute éternité. Et Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Jésus veut empêcher que je ne conçoive trop séparément le Père de Jésus, Jésus du Père. Trop séparément. Vous voyez? Il veut empêcher ça. C'est qu'on peut dire, mais Philippe, il est formidable, ce Philippe, il dit, montre-nous le Père, ça nous suffit. Ben, objectivement, il n'a pas tort. Et vous voyez la réponse de Jésus? Jésus est en train de déconstruire son magnifique objectif à Philippe. En disant, ou plutôt, enlever et déconstruire, plutôt de le préciser, de le rendre plus juste. Plus juste. Oui, je vous montre le Père, mais en vérité, depuis le début, je vous le montre. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et donc, Hébreux, chapitre 1er, il est l'empreinte de sa substance. Et puis, dans Colossiens, en lui habite corporellement la plénitude de la déité, de la divinité, etc. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Tout ce qu'on est en train de dire là, c'est complètement lié avec le don, avec ce qu'on lira au sujet du Saint-Esprit. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Voyez donc, dans un sens, bien entendu qu'ils sont deux, le Père, c'est pas le Fils, c'est pas le Père. Et en même temps, ils ne sont pas trop deux. Vous voyez? Le Père est en moi et je suis dans le Père. C'est beaucoup plus que nous sommes d'accord, nous sommes proches, etc. les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Il faut se rappeler de ça parce que Jésus dira après la même chose au sujet des paroles du Saint-Esprit. Ne viennent pas de moi-même. Vous vous rendez compte, notre Seigneur Jésus-Christ, le chemin, la vérité, la vie, qui confesse aux oreilles des disciples, qui le comprennent qu'en partie à ce moment-là, mes paroles ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Et donc, voyez, et là Jésus va répéter, « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. » Sinon, si vous n'arrivez pas à croire, mais croyez au moins à cause de ses œuvres. C'est-à-dire, ici, ce n'est pas c'est les siennes, mais c'est celles que je vous ai montrées, qui sont les œuvres du Père. Donc il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Et puis, il dit, croyez, je suis dans le Père et le Père est en moi. Quand, par exemple, le même apôtre écrit... peu importe si c'est avant ou après, je ne sais plus. Mais dans la première épître, au chapitre 1er, « Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » En bon rationnel occidentaux, on a tendance à comprendre ça, et c'est une manière de le comprendre. J'ai d'une part une communion avec le Père, et d'autre part une communion avec Jésus-Christ. Et j'ai posé cette question à un ami la semaine écoulée. Il m'a coupé la parole et il m'a dit « hérésie ». Et il a complètement raison. Je n'ai pas trois communions. Je n'ai pas une communion avec le Père, une communion avec le Fils, et alors encore moins en fait, une communion directe, je parle directe, hein, avec séparément. Si vous voulez, je n'ai pas une communion avec le Père, d'une part, d'autre part, séparément de celle-ci, une communion à Jésus, d'autre part, séparément de cette deuxième, une communion avec le Saint-Esprit. Alors, avec le Père et le Fils, c'est écrit, avec le Saint-Esprit, c'est jamais écrit, c'est par leur esprit que nous avons communion au Père et au Fils, tout ensemble, puisque le voyez, croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Ma communion avec le Père, c'est une communion avec le Fils. Et il faut parler ici au pluriel, notre communion avec le Père est une communion avec le Fils, à tel point que Jean écrira, celui qui nie le Fils n'a pas non plus le Père. C'est incroyable. Alors, tout ça, ça va s'éclairer à mesure qu'on lit. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. C'est-à-dire que le Père et moi, nous sommes un, sera de nouveau, ça n'a jamais cessé, pardon Seigneur, c'est difficile de parler de Dieu sans dire quelques... Alors des imprécisions il y en a, mais des fois quelques bêtises aussi. Donc c'est pas que ça a cessé pendant le temps de l'incarnation. Jésus quand il dit le Père et moi nous sommes un, il est encore sur terre incarné. Mais voilà, je monte vers le Père, le Père et moi nous sommes un est manifesté en pleine gloire encore. Et le résultat de ça, c'est que vous ferez les œuvres que je fais. Donc la suite montre, bien sûr, c'est grâce au don, à l'envoi du Saint-Esprit. Plus grande que les miennes, c'est tout simplement plus grande au niveau extension, si vous voulez. Il est dit dans les Actes qu'une multitude de sacrificateurs croyaient à la voix, à l'évangile, à Christ. Du temps de Jésus, ce n'était pas arrivé. Globalement, les grands, les notables d'Israël étaient si peu nombreux. Alors on aime Nicodème, on aime Joseph d'Arimathée. Il y en a quelques-uns qu'on aime beaucoup parce que c'est des prémices. Mais vous voyez, plus grand. Donc ce n'est pas plus grand en valeur. Hein, voilà. En valeur, voilà. On ne fera rien de plus grand que Jésus. C'est grave de penser ça. Mais en extension. Ben, Jésus prêchait qu'à un endroit donné. Le corps de Christ prêche sur toute la planète. voyez, c'est plus étendu. Voilà, je passe. Et tout ce que, parce que je m'en vais vers le Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est, en mon nom, ça veut dire qu'il vient de ma volonté, donc en l'occurrence du Père, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Alors voilà, quand nous demandons quelque chose au nom de Jésus, et que Dieu le fait, ça montre le salut, ça montre la puissance de Dieu, ça montre, que ce soit un miracle ou pas, hein, mais voilà. Mais Jésus dit, en vérité, qu'est-ce que ça fait? Chaque fois que vous êtes exaucé, le Père est glorifié dans le Fils. Parce que vous avez demandé, suite à la parole de Christ vers vous, en vous, vous avez demandé parce que vous avez appris du Fils. Voilà, verset 14, et on continue. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Alors ça va, il va le redire quatre fois en changeant à peine les mots dans les quelques versets qui suivent. Cette connexion, Jésus raccorde fortement l'aimer pour ses disciples, l'aimer lui, aimer Christ et garder sa parole, garder ses commandements. Sa parole est aussi... Et révélation, elle est aussi commandement, c'est-à-dire, elle est à faire. Elle doit être obéie. Et donc, c'est aimer Jésus et garder sa parole, c'est l'un dans l'autre. Inséparable. Donc, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre défenseur, traduction plus littérale, qui soit éternellement avec vous. Et donc, là, c'est l'esprit de vérité. Jésus vient de dire, je suis la vérité. Et il dit, l'esprit, dont toute la Bible montre qu'il est l'esprit de Dieu et du Fils, l'esprit de vérité. Et la première chose que Jésus en dit, quand il parle du Saint-Esprit ici, c'est pas prier et Dieu vous donnera. Il le dit aussi. Hein? Combien plus le Père donnera-t-il l'Esprit à ceux qui lui demandent? On lit dans Acte 1 qu'il persévère, les 120 persévèrent dans la prière, en attendant. Mais là, la première chose que Jésus dit, c'est « Moi, je prierai le Père ». Autrement dit, pourquoi le Saint-Esprit nous est donné quand on croit? Et donné tout au long de la vie chrétienne, avec des dons plus tonitruants une petite précision, quand le Nouveau Testament parle d'être rempli, il a deux verbes, rempli du Saint-Esprit, il y a deux verbes, un qui signifie la douche, si vous voulez, et un qui signifie le goutte-à-goutte, en gros, pour faire imager, voilà. Et les deux, il y a les deux. Donc, pourquoi le Saint-Esprit nous est donné à quiconque croit, vient et est sauvé par Jésus? Parce que Jésus a prié le Père. Ça, c'est notre appui. Ça, c'est la certitude. L'Esprit de vérité... Je relève juste que c'est un autre défenseur, et la suite montrera que le premier, c'est Jésus. Mais je lis encore. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, ce qui veut dire, dans le contexte là, parce qu'il ne m'écoute pas. Et ça, on le sait, en gros, Dieu ne donne pas son esprit aux humains, parce qu'ils sont humains. Parce qu'ils sont ses créatures. Il donne son esprit à ceux des humains qui viennent à son Fils. Donc le monde ne le voit pas, ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez. Alors là, de nouveau, Thomas ou Philippe ou d'autres auraient pu dire, ah bon, t'es sûr, Seigneur? Eh bien, et il leur dit pourquoi. Il dit parce qu'il demeure près de vous. Et en quoi le Saint-Esprit demeure de près d'eux? Parce que Jésus est là. Tout simplement. Parce que Jésus est avec eux. Donc il est, il demeure près de vous. Et puis ensuite, Jésus n'a pas fini sa phrase. Et il a fini et il dit, il sera en vous. Et c'est ce qui va faire toute la différence. Il sera en vous. À noter, je pense l'avoir déjà dit ici, mais que le Nouveau Testament ne fait pas de différence entre le Saint-Esprit en nous et le Saint-Esprit sur nous. C'est une différence un peu technique que nos cerveaux font, mais les textes sont interchangeables. Hein, Jésus dit dans Acte 1, le Saint-Esprit descendra sur une puissance sur vous, et quand ça se réalise, on lit, ils furent remplis. Donc, en eux. C'est complètement synonyme. Voilà, ça c'est juste pour qu'on ne technifie pas ce qui touche au don de Dieu et au don de son esprit. Il ne faut pas technifier, le verbe n'existe pas, mais comme ça vous le retiendrez. Et il sera en vous, éternellement avec vous. Un autre défenseur, celui avec une idée judiciaire là, celui qui te défend contre l'accusateur et contre les différentes, les agresseurs, les qui te défend et soutient, avocat, etc. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viens vers vous. Et ce je viens, incontestablement, vu le reste de ce qui est écrit, donc vu l'analogie de la foi, signifie à la Pentecôte. De sorte que, quand Jésus dit un autre défenseur, et que nous lisons un autre, il ne faut pas partir au quart de tour en disant « Ah, c'est un autre ». Donc, d'un côté, il y a Jésus, et d'un autre côté, il y a le Saint-Esprit. Parce que trois phrases plus loin, Jésus, parlant de l'effusion du Saint-Esprit, de la descente du Saint-Esprit au jour de Pentecôte, il appelle ça « Je viens vers vous par mon esprit ». Donc, de nouveau, Jésus et le Saint-Esprit sont deux, mais pas trop deux. Un petit peu deux. Vous voyez? À tel point que, après, Jésus dira, les paroles du Saint-Esprit ne viendront pas de lui-même, mais il dira, il vous rappellera ce que moi je vous ai dit. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. On peut comprendre, c'est peut-être pas la seule compréhension, mais on peut comprendre à la crucifixion, l'ensevelissement, etc. Mais vous me verrez, parce que moi je vis la résurrection. Et Jésus ressuscité n'a été vu que de disciples, de quelques-uns ou beaucoup de ses disciples, d'aucun autre. Les soldats romains, ils ont vu les anges, ils n'ont pas eu Jésus ressuscité. Hein. Donc, vous me verrez parce que moi je vis et que vous aussi, vous vivrez. Et là, on peut penser crucifixion, résurrection, Pentecôte, dans ce verset. En ce jour-là, vous connaîtrez que... Et voilà. Et c'est ici où ce que Jésus dit au sujet de l'Esprit Saint, Esprit de Dieu et de Jésus, c'est ici que ce que Jésus en dit est comme une redite, où Jésus insiste, il redit ce qu'il a dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Et alors, regardons bien, en ce jour-là, vous connaîtrez que moi, je suis en mon Père. Alors là, il faut un peu de patience, c'est peut-être un petit effort, dire, bon, attends, oui, mais d'accord, oui, bien sûr, en plus, j'ai jamais vraiment douté, moi, que Jésus et Dieu, ils sont ensemble, ils sont un, pas de souci, mais bon, en quoi, moi, ça, qu'est-ce que j'y gagne, moi? Enfin, vous voyez, en quoi ça change ma vie, ça? Alors, pour répondre à cette question, il faut d'abord répondre à la question, enfin, Jésus ne pose pas une question, mais son affirmation, elle pose question. En ce jour-là, crucifixion, résurrection, Pentecôte, le jour où l'Esprit de vérité sera donné, vous connaîtrez quoi? La première chose que le Saint-Esprit opérera en vous, profondément, infusera, vous connaîtrez quoi? Que moi, je suis en mon Père. Quand je dis la première chose, ce n'est pas forcément chronologique, c'est au niveau centralité, si vous voulez, je reformule. La chose la plus centrale que le Saint-Esprit fera en vous, c'est de vous orienter vers mon Père et moi. Et ça, c'est la réponse à la faiblesse de Pierre, à notre faiblesse charnelle. Ça, c'est le décentrage de moi-même, en tant que croyant cette fois-ci, en tant que disciple racheté et voulant, suivant, en train de suivre Christ, me décentrer de moi-même. Et quel bonheur, Seigneur, de ne plus être égocentré. Alors moi-même qui le dis, je ne peux pas affirmer que je ne le suis plus du tout. Et j'ai presque 70 ans, et ben, je ne suis pas tout à fait. Mais infiniment moins égocentré que peu après ma conversion. Et que peu après l'époque où j'ai réalisé que Dieu m'avait donné un don pour les Écritures et pour lire et pour enseigner. Oh, que je l'ai fait pour briller. Oh, que je l'ai fait pour montrer à quel point j'étais spirituel. Et quel bonheur d'être délivré de ça. En grande, grande partie délivré. Parce que Dieu, il nous délivre de notre égocentrisme. Je ne parle pas d'un égoïsme matériel. Ouais, c'est ma voiture, c'est ma cravate. Vous voyez, ça, ce n'est pas trop un problème. Quoique. Mais égocentré. Je suis quand même le centre du monde. La preuve, même Dieu, il a tout créé pour moi. Ce que la Bible ne dit jamais. Il a tout créé pour. Tout a été créé pour le Fils unique. Mais voyez, Dieu ne me. Ça fait à peine 30 minutes que je parle. C'est formidable. Je veux pas être long. Dieu ne nous décentre pas, premièrement, de notre égocentrisme naturel, hein, depuis la chute, depuis Adam et Ève. Il ne nous en décentre pas, premièrement, en nous enlevant quelque chose, en nous brisant, corrigeant, ou en nous châtiant. Il châtie quelquefois. Pas premièrement. Il nous en décentre, premièrement, en nous orientant vers l'amour qui est en amont de tout amour et de son amour pour nous. L'amour du Père pour le Fils. Le Père aime le Fils, Jean chapitre 3. Le Père aime le Fils, Jean chapitre 5. Le Père m'aime, dit Jésus, Jean chapitre 10. Et en nous orientant vers le Père et le Fils, à ce moment-là, c'est par ça qui nous décentre. De même que, comment Dieu fera, si vous voulez, pardon, je vais essayer de faire une seule phrase à la fois. en faisant ça, en me faisant adorateur, admirateur de l'amour du Père pour le Fils et du Fils pour le Père, en me faisant accepter, c'est plus qu'accepter, mais adorer, le fait qu'il y a un Fils unique, que je ne suis que l'un parmi les nombreux fils adoptifs. En faisant déjà ça en moi, en me focalisant vers cet amour éternel, vers le Père et le Fils, Dieu commence et a commencé ce qu'il achèvera au dernier jour où nous serons pleinement à l'image de Christ. Et l'apôtre Jean, le même, écrit, nous le serons tel qu'il est. Et il dit pourquoi, il dit comment ça va se faire. Il dit pourquoi nous serons tel qu'il est. Parce que nous serons semblables à lui, pardon, parce que nous le verrons tel qu'il est. La puissance divine qui nous fera complètement semblable à Jésus, c'est de voir Jésus tel qu'il est. Et la puissance divine qui nous fait au présent disciples collectivement et individuellement disciples de Jésus, la puissance qui nous fait ressembler à Jésus, et donc parce que quelqu'un qui n'était pas égocentré sur terre, à 0%, c'est bien le Seigneur Jésus. Donc qui nous fait à son image, c'est de voir comme il est et comme il est avec le Père et comme le Père est avec lui. Amen. Le Père et moi, nous sommes un. Le Père et moi, nous sommes un. Et la prière même de Jésus, hein, 3 chapitres après, c'est qu'ils connaissent ça. Et que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Donc si vous voulez, quand on prie, qu'on loue, qu'on chante à quel point Dieu nous aime et que son amour soit en nous et que ça change tout pour nous, et on fait bien. On fait bien. Simplement, il faut pas oublier que ce n'est que son amour second. Son amour est premièrement pour le Fils unique. Alors Dieu nous a créés par amour. En fait, Dieu a créé l'homme par amour pour son Fils. Pour que ceux parmi les humains qui seraient joignables à son Fils lui soient donnés. Oui, Dieu nous a créés par amour. Par amour pour nous ? Oui, secondement, mais premièrement, par amour pour son Fils. Et voilà, vous connaîtrez que moi, je suis en mon Père. Mais évidemment, tout de suite après, la même phrase, vous connaîtrez, donc virgule, donc premièrement, vous connaîtrez que moi, je suis en mon Père, par le Saint-Esprit. Il vous focalisera là. Et deuxièmement, par le Saint-Esprit, vous connaîtrez que vous êtes en moi et moi en vous. Alors, en relisant ça avec Anne-Marie, entre autres hier soir, elle a dit, la question est venue, pourquoi Jésus dit d'abord vous en moi et ensuite moi en vous ? Je dois avouer que pendant des décennies, j'ai trouvé que ce n'était pas le bon ordre. Mais en général, quand on trouve quelque chose de plus intelligent que la manière dont la Bible est écrite, c'est qu'on est en train de s'égarer, mais grave. Hein? Alors, je me dis, mais non, c'est quand même moi en vous. Donc Jésus est premier et il vient en nous. Et donc le résultat, c'est que nous, on est en lui. Et ici, Jésus, il le dit dans l'autre ordre. Alors bien sûr que Jésus vient, ce n'est pas nous qui accédons à lui. C'est lui qui vient en nous. Mais il dit, là, il ne parle pas simplement de sa venue dans nos cœurs. Il parle de ce que l'Esprit nous fera savoir, connaître, ce dont l'Esprit Saint nous convaincra. Il nous convaincra que nous sommes en Christ. Autrement dit, donc désolé pour le vocabulaire, probablement à corriger, le Saint-Esprit nous délocalisera de notre centre adoré. Alors, être en Christ, en fait, ce n'est pas une localisation. Hein. C'est spirituel, c'est un attachement, c'est une union, c'est le Saint-Esprit qui opère ça, c'est Dieu, c'est quelque chose d'éternel après. Donc, ce n'est pas une localisation technique, mais c'est juste pour qu'on se rappelle. Le Saint-Esprit, en ce jour-là, quand le Saint-Esprit vous sera donné, vous connaîtrez que vous êtes en moi. Et c'est ça qui produit les belles paroles du genre « Vous ne vous appartenez plus à vous-même », etc. Parce que si ce n'est pas le Saint-Esprit qui produit ça, qui nous focalise comme ça, eh bien ne plus s'appartenir à soi-même, c'est une bagarre sans fin, de la conversion au décès et désespérant. Comment tu veux que l'homme naturel ne s'appartienne pas à lui-même. Voilà, vous en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Autrement dit, comment on reconnaît qu'il m'aime ? En ce qu'il garde ma parole, mais aussi, qui garde ma parole ? Celui qui m'aime. Vous voyez, c'est lisible dans les deux sens. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Pourtant, le Père l'a aimé en premier. On a bien fait de le chanter. Mais ça semble signifier encore. C'est comme un davantage. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et ça se comprend. Tu ne peux pas plaire à Dieu plus qu'en aimant son Fils unique. Voilà. Tu ne feras jamais rien qui plaira plus à Dieu que d'aimer son Fils unique, qui est son trésor, qui est le centre de son dessein. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai, Jésus dit. Celui qui m'aime, je l'aimerai aussi. Or, Jésus a aimé le premier. Donc, quand il dit « je l'aimerai », il faut comprendre encore un davantage. Je lui ouvrirai encore quelques... Et je me manifesterai à lui, de beaucoup de manières. Pardon, c'est moi qui l'assassin un commentaire. Jude, non pas l'Iscariote, donc pas Judas, lui dit « Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non au monde ?» Et Jésus répondit, et il semble là, j'aime beaucoup, vous le savez, ce genre de réponse, il semble qu'il ne répond pas du tout. Hein. Jésus lui répond en disant pareil qu'il a dit avant. Il redit la chose qui a suscité cette question. Jésus répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Et mon Père l'aimera. Nous viendrons, et c'est quand même un pluriel, nous, le Père et le Fils, nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Nous viendrons habiter en lui. Et là, tout le contexte oblige à lire, à comprendre par notre esprit. Voilà. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et donc là, il répond quand même à la question de Jude. Ben oui, Jésus ne se manifeste pas au monde parce que le monde ne garde pas sa parole. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc ça fait deux fois qu'il le dit aussi. Je vous ai parlé de cela pendant que je demeure auprès de vous. Mais le défenseur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Voilà. Tant que je suis avec vous, c'est moi qui vous parle. Et puis, quand il viendra, il vous enseigne le Saint-Esprit, alors c'est magnifique ça, que le Père enverra en mon nom. Et au chapitre 15, Jésus dira que je vous enverrai de la part du Père. 15 et 16 d'ailleurs, je crois. Donc de nouveau, c'est... Alors qui c'est qui envoie le Saint-Esprit ? Mais le Père, au nom de Jésus, et Jésus l'envoie de la part du Père. Bon, le Père et moi, nous sommes un. Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Et ici, de nouveau, il vaut mieux ne pas le lire comme deux choses distinctes. Comme si d'une part, le Saint-Esprit nous enseignerait toutes choses et d'autre part, il nous rappellera ce que Jésus a dit. Alors pourquoi c'est pas à comprendre comme ça ? Parce que Jésus le dit explicitement au chapitre 7, si vous voulez. Il vous enseignera toutes choses. Ça veut dire quoi cette phrase ? Il vous enseignera toutes choses en vous rappelant ce que moi je vous ai dit. Et ça, vous le voyez à travers tout l'Ancien Testament, c'est la pensée hébraïque quand elle dit une chose, puis une autre, c'est extrêmement rare qu'elle veuille dire trois choses. En général, elle redit, elle insiste, elle reformule une chose, si vous voulez. Et on le voit chez les prophètes, ils disent ceci, puis ceci, tout, dans la même phrase ou avec plusieurs phrases, et en fait, ils disent une même chose. Voilà. Alors, pour conclure, chapitre 16. Verset 13. Quand il sera venu, non, évidemment, je saute des parties, hein, désolé, mais voilà. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Et donc, entendu signifie aussi, le contexte oblige à comprendre, entendu du Père et de moi. Et donc, c'est là où Jésus dit, et où on lit noir sur blanc, il vous conduira dans toute la vérité. Comment ? En vous révélant des choses inédites. Non, si je crois ça, grave danger. Il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même. Alors, c'est une idée très répandue depuis 2-3 décennies que le Saint-Esprit, plus l'effusion est grande, plus il nous révèle des choses inédites que la Bible ne dit pas, etc. Mais c'est du poison, c'est une idée très répandue, mais fondamentalement mensongère. Donc, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même. Vous rendez compte ? On va dire, mais ça c'est choquant quand même, le Saint-Esprit de Dieu, il ne peut pas. Jésus dit qu'il ne parlera pas de lui-même, il n'a rien à dire lui-même. Bon, moi je ne réponds pas, je nous renvoie à Jésus qui dit, mes paroles ne viennent pas de moi. Alors comment le Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu éternel, il n'a rien à dire de lui-même? Ça ne veut pas dire que ce n'est pas de lui, enfin, voyez, mais il faut retenir ça. Autant Jésus n'innove pas par rapport au Père. Et c'est une catastrophe si je crois que l'Évangile, c'est quelque chose d'inédit par rapport à l'Ancien Testament. Tout a été annoncé. À tel point que de très bons théologiens ont surnommé le livre d'Ésaïe le cinquième Évangile. Ce n'est pas de l'inédit. Pourquoi ? Parce que tout était déjà en Dieu. Et donc, il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera. Et donc, cette phrase est connue et il faut s'en réjouir, très souvent répétée dans beaucoup de milieux, que le Saint-Esprit a finalement un but parmi nous sur terre, c'est de glorifier Jésus, c'est-à-dire de l'élever et de nous le rendre visible. Et accessible et sensible et voilà, de nous orienter vers lui. Et en fait, retenons simplement que quand Jésus dit « lui me glorifiera », ça dit exactement la même chose que quand en ce jour-là vous connaîtrez que moi je suis en mon Père. C'est-à-dire, il vous focalisera sur le Père et moi. Est-ce que je dois oser une formulation risquée encore ? Le Saint-Esprit, il ne nous est pas donné pour doper notre personne et pour qu'on puisse faire ce qu'on veut. Mais il nous focalise sur le Père et le Fils. Et pour bien souligner ça, Jésus finit comment ? En disant, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Oui, ça il l'a dit et voilà. Amen. Saint-Esprit, le Saint-Esprit me révèle le centre de tout, le cœur de tout, le Père et le Fils. Et lui-même est issu d'eux. Il est issu et du Père et du Fils. Amen.
Ah oui. Merci beaucoup, Jean. Merci. Seigneur, merci.